RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Sur certaines îles grecques, ils débarquent toujours plus nombreux, par bateau. Ces Syriens fuient les combats qui s'intensifient ces derniers mois avec la progression de l'organisation de l'État islamique dans l'est du pays. Mais ils ne restent pas en Grèce. En août, seuls un peu moins de 400 avaient demandé l'asile. Si le pays a largement facilité leur requête, eh bien la situation économique reste difficile. La plupart partent donc le plus rapidement possible vers le nord de l'Europe et ceux qui restent sur place, eh bien pour eux c'est la désillusion qui l'emporte. Grand reportage signé Charlotte Stevenard que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Comme tous les matins, Omar écoute Fayrouz, la chanteuse libanaise que l'on entend dans toutes les boutiques du Moyen-Orient. Cet ancien étudiant en archéologie de 25 ans est dans le bus qui doit l'emmener à Ioannina, non loin de la frontière albanaise. C'est le chemin qu'il a choisi pour rejoindre le nord de l'Europe, plus particulièrement l'Allemagne, car il a de la famille en Bavière.
Do you know German?
Tu parles allemand? Tu connais quel mot?
Grande, petite, bonne nuit. Non, je n'ai toujours pas appris l'allemand, je ne sais pas.
Et avant la guerre, tu aurais déjà pensé aller en Allemagne un jour?
Non, jamais. On ne pensait pas à quitter la Syrie. On travaillait, on étudiait, on avait une bonne vie. On ne pensait pas à la politique à cette époque. On s'est fait avoir. Quand les événements ont commencé, notre vie a complètement changé. On s'est retrouvé devant des choix qu'on n'avait jamais envisagés jusqu'ici. L'un d'eux, c'était de voyager.
Malgré ses 25 ans, Omar a déjà quelques cheveux blancs. Ils sont apparus cet été lorsque les djihadistes de l'État islamique se sont installés dans l'est de la Syrie, sa région natale. Il ne veut pas qu'on donne son vrai nom, car il a peur pour sa famille rester sur place. Il est parti avec son petit frère et leur oncle du même âge, en voiture et à pied jusqu'en Turquie, puis en bateau jusqu'en Grèce avec un passeur. Pour rejoindre le nord de l'Europe, 6 autres Syriens se sont joints à eux. Arrivé à Ioannina, le groupe veut prendre le bus jusqu'à un village avant Kakavia, le poste frontière à 60 km de là. Mais au guichet, on leur demande leurs papiers, puis on leur refuse les tickets pour cette ligne. Ordre de la police, explique le guichetier. Même chose du côté des taxis stationnés à la gare. Il y a un mois, on leur a donné la même consigne. Une situation qui arrange bien les passeurs. Il faudra donc quand même faire appel à eux. Un ami qui a déjà fait le trajet leur a donné le nom d'un Nigérian. Après l'avoir cherché quelques heures, Omar rappelle.
Oui, dis-moi.
On a trouvé un hôtel où se trouve le passeur nigérian.
Aïwa ?
Ils nous ont dit qu'il arrivera le soir.
Aïwa ?
Il sera là-bas après 21h.
Aïwa ? Yani tafaqtu ma'a ou la lissa ?
Vous avez fait affaire ?
On ne l'a pas encore rencontré en vrai. On a rencontré un Kurde.
Eh.
Il nous a dit qu'il trouverait son numéro pour nous.
Aïwa, moi, ça, c'est...
Tu as aussi parlé d'un Marocain qui demande 100 euros.
Oui, on a rencontré un Marocain. Il m'a dit qu'il nous emmènera à la frontière en taxi. Dans tous les cas, on a besoin de rencontrer l'autre passeur. On est coincé. Celui qui nous mettra en contact avec les passeurs albanais, c'est le Nigérian.
Ok, envoie-moi l'adresse à l'hôtel. On est dans le centre. On arrive.
Hôtel Kenab al-Markaz. Mashi. Tamam. Bye.
En attendant que la situation se débloque, le groupe s'est installé dans le petit hôtel de 6 chambres où travaille le passeur marocain, au vu et au su de la propriétaire. La trentaine, il est en Grèce depuis 9 ans, il ne sait pas qu'il est enregistré.
Pardon madame. Je ne peux pas vous donner le numéro du taxi ni vous dire où il va exactement. Ça fait partie de mon travail. Vous allez laisser l'argent avec ces personnes ici. Il faut une heure pour rejoindre la frontière jusqu'à Kakavia.
On va se séparer en 3 groupes jusqu'à la frontière. Quand le dernier groupe arrive, on va l'appeler et tu vas recevoir ton argent.
Quand les 8 premiers seront arrivés, le chauffeur de taxi me préviendra et quand il prendra le dernier et qu'il reviendra, je vais recevoir mon argent.
Une heure plus tard, le taxi du passeur arrive enfin. En réalité, c'est une arnaque. 10 minutes plus tard, les Syriens sont de retour en colère. Le taxi voulait les emmener à 20 km de la frontière, loin du lieu sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Retour à la case départ. Ils attendent encore dans la cour fleurie de l'hôtel, puis tout le monde va se coucher. Le lendemain, au bord du lac de Ioannina, Omar écoute Fayrouz comme tous les matins. Ils partiront finalement avec un taxi trouvé sans passeur. Le voyage sera long, dangereux et coûteux. En Albanie, en pleine cambrousse, ils se feront tirer dessus par un homme dans une maison isolée. Et en Serbie, un passeur pointera un pistolet sur eux pour les forcer à payer le double. Finalement, arrivés en Autriche, le voyage leur aura coûté quand même près de 4000 euros par personne. Mais tous ne parviennent pas à quitter la Grèce. La route par la Macédoine est devenue plus difficile, comme l'expliquent ces deux jeunes Syriens rentrés ce matin. Ils logent dans une petite cabane abandonnée au sommet d'un immeuble. Avec 200 autres personnes, dont des familles et des enfants, ils ont marché 12 heures après avoir passé la frontière au nord de Polycastro. Ils ont ensuite attendu pendant 3 jours, sans eau ni nourriture, dans une bergerie que des passeurs amènent les voitures. La police macédonienne les a finalement arrêtés et les a renvoyés en Grèce à coups de matraque. Ce jeune homme de 28 ans était comptable à Dubaï. Il n'aurait jamais imaginé en arriver là.
And will you try again?
Vous allez réessayer?
Non, of course not.
Non, bien sûr que non. Ils nous ont très mal accueillis, vous savez. La frontière est juste à 100 mètres, mais les comportements ne sont pas les mêmes entre la Macédoine et la Grèce. En Grèce, ils ne te touchent pas, ils t'ignorent. Je ne repars pas parce que c'est très dur. Imaginez, vous continuez de marcher jusqu'à Skopje et après ils vous arrêtent. Vous allez faire plus de 120 km, tout ça pour rien, et après ça, on te renvoie.
Juste avant la frontière macédonienne, certains attendent dans un campement de fortune dans la forêt de pouvoir retenter. Ils sont parfois plus de 300, des Syriens, mais aussi des Afghans, des Pakistanais ou des Érythréens. Tous ceux qui veulent rejoindre le nord de l'Europe. Ces derniers mois, des opérations de police en Macédoine et en Serbie ont permis de démanteler plusieurs réseaux de trafiquants. Une des routes les plus utilisées est donc bloquée. Il reste le bateau depuis Patras au sud-ouest de la Grèce ou depuis Igoumenitsa au nord-ouest. Là aussi, les prix tournent autour de 3500 à 4500 euros. Certains s'embarquent dans des camions pour l'Italie ou encore prennent l'avion avec des faux papiers pour 7000 euros à payer aux faussaires une fois arrivés. Mais partout, les contrôles sont renforcés. Fin octobre, une opération appelée Mosmeorum a eu lieu dans 25 pays européens. Elle visait à collecter des informations sur les réseaux d'immigration clandestins. La police grecque reste muette sur le sujet. Beaucoup de Syriens doivent maintenant rester en Grèce. Nous demandons des solutions pour les Syriens. C'est ce que les manifestants ont inscrit sur leur banderole. Depuis la mi-novembre, plus de 300 réfugiés occupent le parvis devant le Parlement à Athènes. Il y a des familles avec des enfants, mais surtout beaucoup d'hommes. Ils font partie de la classe moyenne, comme Hazim, un commercial de 28 ans. Ce sont les seuls qui arrivent à se payer le voyage vers l'Europe. Les autres restent dans des camps en Turquie, en Jordanie ou encore au Liban.
On a perdu notre pays, nos maisons, notre travail. Nous avons des gens qui ont des bons CV ici, des ingénieurs mécaniques, des docteurs. Tous ont perdu leur travail. Ils ne peuvent pas rester en Syrie. Ils viennent en Europe, ils ont besoin de travailler. Un endroit sûr pour vivre, quelque chose. Mais ici, le gouvernement ne nous a rien donné. Juste un papier qui nous autorise à rester ici pendant 6 mois. Ensuite, il faut partir. Mais pour aller où? C'est ça la question. On a juste besoin d'aide.
Mais dans un pays où plus de 26% de la population est au chômage et où le système social est en panne, ces Syriens n'ont personne sur qui compter. Ils se tournent alors vers les réseaux informels concentrés non loin du centre-ville d'Athènes, comme l'explique ce Syrien trentenaire. Donc ça, c'est la rue Ararna, non?
Oui, c'est ça.
I think 90%
Je pense que 90% des Syriens habitent ici, dans des appartements ou dans des hôtels. En été, il y en a beaucoup qui dorment dans les parcs. Les Syriens viennent ici car ici ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent, comme des papiers et le matériel pour quitter la Grèce.
Dans cette rue, on trouve aussi de la drogue et des prostituées. Les passeurs se rencontrent dans des cafés arabes et les contrôles de police sont nombreux. Et surtout, les appartements sont loués à prix d'or. 90 mètres carrés pour 1300 euros, alors que le loyer de ce type d'appartement tourne normalement autour de 300 euros. Dans ces conditions, beaucoup se retrouvent rapidement à court d'argent et donc à la rue. C'est le cas de cet homme de 37 ans qui s'est fait voler toutes ses économies. Avec des familles et même des enfants, il dorme dans le grand parc de Pedion Areos, connu pour son importante population de junkies. En Syrie, il était comptable.
Vous voyez derrière cette pierre, quand je dors, la police ne peut pas me voir. Personne ne peut me voir. Et je dors près de la porte. Car s'il y a un problème, je peux m'échapper. En Syrie, on dormait aussi dehors. Pas la même situation. Ici, il n'y a pas de guerre. C'est différent.
À la Steki Metanaston, la maison des émigrés, des réunions ont été organisées avec les Syriens qui dorment dans ce parc et diverses associations. Il s'agit de parer aux plus urgents. Ils distribuent des sacs de couchage, des habits ou soignent gratuitement et informent sur le droit d'asile. En Grèce, l'État ne propose que 1000 places pour loger l'ensemble des réfugiés qui arrivent. La priorité est donc donnée aux familles qui font une demande d'asile. Nancy Retignotti travaille pour Médecins du Monde. Pour elle, l'accueil des Syriens repose quasiment uniquement sur les organisations non gouvernementales.
Il n'y a pas de politique pour les Syriens. La situation est extrêmement difficile et ce problème n'est pas pris en compte par l'État. Beaucoup de Syriens vivent dans la rue. Ils reçoivent le papier qui dit qu'ils sont tolérés sur le sol grec pendant 6 mois, mais ce papier ne leur donne droit à aucun service. On parle ici de réfugiés, donc de réfugiés syriens qui n'ont en réalité aucune protection en Grèce.
En Grèce, depuis un an et demi, les Syriens reçoivent un papier renouvelable qui leur permet de rester 6 mois, contre 1 mois pour les autres nationalités. Mais ce document ne leur donne aucun droit. Pour ceux qui ont perdu tout leur argent, il ne reste plus qu'une solution, demander l'asile en Grèce. À côté de la station de métro Kateraki, certains ont attendu toute la nuit devant le centre de demande d'asile, créé il y a un peu plus d'un an. Depuis la fin septembre, il existe même une procédure accélérée pour les Syriens. Ceux qui ont un passeport peuvent faire leur demande d'asile, être reçus pour un interrogatoire et recevoir la réponse dans la même journée. Stavros Makis est chargé d'examiner les dossiers. Ce matin, il a rencontré 3 personnes.
2 Kurdes et 1 Arabe.
2 Kurdes et 1 Arabe. Ils ont tous des problèmes parce qu'ils ont été appelés par l'armée pour faire la guerre. Ils ne voulaient pas y aller. Dans ces cas-là, si vous dites non, vous êtes considéré comme opposant au régime, donc vous avez droit au statut de réfugié.
Pourquoi ont-ils demandé asile en Grèce? Ils n'ont pas essayé de partir?
L'un d'eux a son frère ici et l'autre est un proche de cette famille. Le dernier est ici depuis 2 ans, 2 ans et demi. Il travaille, il veut juste être régularisé.
Ne pas pouvoir s'installer au nord de l'Europe, c'est ce qui empêche beaucoup de Syriens de faire leur demande d'asile en Grèce. La plupart préfèrent rejoindre leur famille souvent déjà installée en Suède, au Danemark, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Pour Céla Nanou, attachée de presse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils sont aussi découragés par la situation en Grèce.
Même s'ils reçoivent le statut de réfugié, les perspectives d'intégration sont très limitées. Entre la crise économique, le chômage important et l'absence d'aide de l'État, même s'ils sont reconnus comme réfugiés, ils ne voient aucun avenir pour eux en Grèce.
Mon pays est grand. Il chante pour son pays. Mon pays est grand et beau. C'est une vieille chanson.
au local de l'association de la communauté syrienne de Grèce, la crise économique a elle aussi déjà chassé la plupart des membres. Depuis sa création, il y a 3 ans, ils sont passés de 150 à une dizaine. Samer Youssef, un des membres actifs, habite ici depuis 20 ans. Pour lui, difficile d'expliquer le fonctionnement du système en Grèce à ses compatriotes.
Ils veulent que personne ne reste ici, mais ils ne laissent pas partir les gens, ils les attrapent à l'aéroport. Hier, au centre d'asile, un homme m'a dit « Ok, les Grecs ont des problèmes économiques, pourquoi ils ne nous laissent pas partir ?» Je leur ai dit « C'est une règle européenne, pas grecque. »
La difficile route des Syriens en Grèce, un grand reportage de Charlotte Stievenard, réalisation Marc Minatel.
Charlotte Stievenard, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Pour ce reportage, vous vous êtes donc rendu au nord de la Grèce avec un groupe de Syriens qui voulaient traverser l'Europe de l'Est illégalement. Ils sont finalement bien arrivés en Allemagne.
Oui, ils ont mis en tout 2 semaines. À partir de la Grèce, ils ont traversé 5 pays, ils ont dû faire appel à 7 passeurs. Ça leur a coûté 4000 euros par personne. Pour ce prix-là, ils auraient pu trouver quelqu'un qui organise les connexions entre les différents passeurs à partir de la capitale grecque. Beaucoup choisissent cette solution qui est plus sécurisante, même si elle n'est pas non plus sans danger. Et surtout, les prix ont augmenté avec le renforcement des contrôles. Il y a 2 ans, ça coûtait entre 2500 et 3000 euros.
Alors Charlotte, ceux qui essaient de franchir les frontières sans passeurs utilisent leur GPS et ils se basent sur le récit de ceux qui ont déjà fait le voyage.
Oui, et pour ça, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Les Syriens qui arrivent en Grèce font partie de la classe moyenne. Pour la plupart, ils ont un smartphone, ils communiquent grâce à des applications comme Viber, WhatsApp et autres. Une fois partis, ils envoient des photos, des messages pour tenir leur famille et leurs amis au courant. Par exemple, le groupe qui est passé par Ioannina a entièrement filmé son voyage depuis la Syrie. Et puis, il y a aussi les groupes Facebook. Un Syrien arrivé en Allemagne en a créé un il y a 1 an et demi pour ses compatriotes en Grèce, après avoir lui-même fait le voyage. Il explique qu'au départ, il s'agissait surtout de s'entraider sur place, mais que peu à peu, les membres du groupe ont commencé à échanger sur les routes pour sortir du pays. Le plus souvent, ils expliquent comment faire pour éviter d'avoir recours à des passeurs où ils dénoncent les arnaqueurs.
Dans votre reportage, vous parlez aussi de l'arrivée de l'organisation de l'État islamique dans l'est de la Syrie. On peut se demander tout de même si certains djihadistes n'en profitent pas pour passer par la Grèce.
Alors, il y a effectivement eu plusieurs arrestations ces derniers temps de personnes passées par la Grèce. Elles sont suspectées d'appartenir à des mouvements djihadistes comme le Front al-Nosra ou l'Organisation de l'État islamique. Mais selon un responsable du service des renseignements qui est cité dans un article du Los Angeles Times en septembre dernier, il ne s'agirait pas de cellules dormantes en Grèce, mais plutôt de combattants qui transitent par ce pays. Ce responsable parle également d'une haute vigilance de la part des autorités grecques. Mais globalement, il est très difficile de trouver des informations fiables à ce sujet. La police communique peu. J'ai par exemple demandé quelles mesures de sécurité la Grèce a prises sur ces questions et malgré plusieurs relances, je n'ai pas eu de réponse jusqu'ici.
Alors on voit aussi qu'avec le renforcement des contrôles, beaucoup de Syriens sont bloqués en Grèce, mais ils ne demandent pas l'asile. Le cœur du problème, je parle sous votre contrôle, reste le règlement européen.
Oui, tout à fait. Sur l'ensemble des demandes d'asile de Syriens en Europe, seul 1% l'ont fait en Grèce cette année, alors que c'est leur principale porte d'entrée pour le continent. Ce chiffre contredit le règlement Dublin 2, selon lequel le demandeur d'asile doit faire sa demande dans le premier pays où il arrive. On prend d'abord ses empreintes et s'il se rend dans un autre pays, on le renvoie, en théorie, dans celui où il a fait sa demande. Mais dans les faits, ce n'était pas toujours le cas pour la Grèce jusqu'ici. Une clause a été ajoutée au règlement qui stipule qu'on ne peut pas renvoyer un migrant dans un pays où le système d'asile est défaillant. C'était le cas jusqu'ici, mais depuis la création du nouveau système d'asile en Grèce, il y a un peu plus d'un an, les Syriens ont désormais plus de 99% de chances d'obtenir l'asile.
Ce sera le mot de la fin, Charlotte. Merci beaucoup. Grand reportage à réécouter dans son intégralité sur RFI.fr. Bonne journée, à bientôt.